dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Puis l'Amérique, qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. John Lyndon devant ce micro. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 17 mai 2024. Vous êtes sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons de l'impact de l'intelligence artificielle dans la création ou la disparition des emplois. Durant le mois de mai, des milliers d'étudiants reçoivent leur parchemin dans différentes universités ici aux États-Unis. Ils vont intégrer la marche du travail alors que l'intelligence artificielle devient de plus en plus incontournable dans le milieu du travail. Dans un article publié il y a quelques mois, Le Monde informatique, citant le Fonds monétaire international, alertait sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Ce site spécialisé mettait notamment en évidence un rapport du FMI publié en préparation au Forum économique mondial de Davos. Dans ce rapport, l'institution soulignait que près de 40% des emplois mondiaux seront touchés par l'intelligence artificielle. Le FMI estime qu'environ 60% des emplois affectés par l'IA se trouvent dans les pays à revenus élevés, et environ la moitié de ces emplois pourraient bénéficier de l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité. En comparaison, l'impact est estimé à 40% dans les marchés émergents et à 26% dans les pays à faible revenu. Toujours selon Le Monde informatique, l'intelligence artificielle pourrait améliorer la productivité en libérant les employés des tâches répétitives et mécaniques, mais elle pourrait aussi remplacer certains métiers, réduire la demande de main-d'œuvre et impacter les salaires. Le FMI prévient que l'intelligence artificielle pourrait aussi accentuer les inégalités salariales avec un effet négatif sur les classes moyennes. Pour nous accompagner dans ce programme, nous avons comme invité ce soir Ayi Mamouena d'Almeida. Vous êtes analyste et consultant en sécurité des systèmes informatiques. Vous êtes à Lomé, au Togo. Ayi d'Almeida, bonsoir et ravi de vous avoir dans cette émission.
Bonsoir, John Lydon, mais moi de même, je suis ravi de participer à cette émission.
Kemal Afagnon est spécialiste des médias numériques et responsable pour l'Afrique de l'Ouest au sein d'Internet sans frontières. Vous êtes aussi auteur d'un article scientifique intitulé « Espace numérique et fake news en Afrique » sur les traces des langues de la téléphonie et des croyances religieuses. Kemal, bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir, Jean-Ligon. Merci encore une fois pour l'invitation de continuer renouvelée.
Henri-Désiré Nzouzi est également avec nous dans ce studio. Vous êtes le producteur associé du JT diplomatique et fondateur de Networking, un événement organisé chaque mois à Kinshasa et qui met en contact les opérateurs économiques, les diplomates et les acteurs divers. Henri Désiré, c'est un plaisir de vous avoir dans ce studio.
Merci infiniment de m'accueillir.
John. Alors, on va commencer par Ayi d'Almeida. Quel regard portez-vous sur l'intelligence artificielle aujourd'hui et son impact sur les emplois et précisément les métiers de la cybersécurité, aussi bien dans le pays, dans les pays en développement que développés?
Alors, merci pour la question. Je pense que l'intelligence artificielle ne sera pas le facteur disruptif le plus important pour les prochaines années. Il ne faut pas craindre l'intelligence artificielle et s'y lancer parce qu'il faut le faire et parce que c'est au bout du jour. Mais il faut le faire parce qu'on a une importance pour l'IA. Et quand on s'intéresse à l'impact de l'IA sur la sécurité des entreprises, la question qu'il faut se poser, à mon sens, c'est de savoir comment elle améliore la détection des menaces et permet d'automatiser les réponses aux incidents, les réponses aux attaques. Et ce raisonnement, à mon sens, s'applique également à la mise en œuvre des plans d'action dédiés à la prévention des attaques et plus globalement à la gestion des vulnérabilités. Alors, en ce qui concerne l'impact sur les métiers, je pense que les auditeurs cyber font partie des métiers qui seront les plus frappés par la montée en puissance de l'IA, parce que leur principale mission, c'est d'évaluer les processus liés à la cybersécurité. Et cette évaluation globale comprend non seulement les aspects juridiques, techniques, mais aussi organisationnels et également la sécurité physique. Et l'intelligence artificielle pourrait avoir la capacité de se charger de toute ou partie du process. Donc les emplois peuvent se sentir menacés, mais on devra beaucoup plus aller vers une revue ou bien une reconversion de ces métiers-là et puis un changement de cap de ces métiers pour pouvoir les adapter et faire plutôt de l'intelligence artificielle un outil de productivité plutôt que de la bête noire dont il faut avoir peur.
Et on en parle tout au long de cette émission. Toutes nos excuses pour la qualité un peu terrible de cette communication avec le Togo. Gemma Lafagnon, le secteur des médias est déjà, lui, durement frappé par l'intelligence artificielle. De nombreux médias sont en train de fermer boutique et l'intelligence artificielle est aujourd'hui capable de rédiger des articles. Comment cette industrie des médias peut-elle se relever ou se maintenir en vie?
Merci pour la question. Effectivement, un constat pertinent que vous venez de faire. Dans le domaine du journalisme, par exemple, on a vu des grands titres comme le New York Times porter plainte, par exemple, contre ChatGPT, une technologie qui repose sur un modèle d'apprentissage massif construit en copiant et en utilisant des millions d'articles en accès libre sur le web. Mais ces articles qui sont écrits par de vraies personnes, de vrais journalistes, donc ils sont protégés par le droit d'auteur. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de. Avec l'avènement et l'émergence de l'intelligence artificielle, de repenser à l'importance de la question des sources aujourd'hui sur Internet. Les journalistes accusent notamment Microsoft et OpenAI d'avoir utilisé leur travail pour développer et commercialiser leurs produits d'intelligence artificielle générative sans avoir la permission du journal. Mais en tant que tel, aujourd'hui, je pense qu'il faut être prêt à revendiquer donc les droits par rapport à ce qui ressemble à une sorte de pillage massif orchestré en ligne. Mais l'avenir des médias à l'ère de l'intelligence artificielle implique aujourd'hui aussi une redéfinition des compétences journalistiques. Je pense qu'il ne s'agit plus aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle de savoir écrire ou rapporter des faits pour un journaliste, mais il faut savoir aussi interagir avec les technologies.
Tout à fait.
Pour comprendre leurs capacités et leurs limites et justement offrir quelque chose de nouveau. Mmh. Et aujourd'hui, la régulation de l'IA dans les médias aussi est un champ complexe. Je profite de cette occasion pour justement faire allusion, par exemple, à cette initiative du gouvernement béninois qui entend rayonner à travers la valorisation de ces données par le biais de l'intelligence artificielle à l'horizon 2027.
Alors.
Il s'agit d'une politique qui est encore embryonnaire, mais c'est important déjà de mettre des balises pour protéger le secteur médiatique ainsi que les populations qui consomment le travail de ces médias.
D'accord. Alors, Henri et Désiré, quelle est l'observation que vous vous faites de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le secteur des emplois, quelle qu'elle soit, et quels que soient les domaines de compétences?
Alors, à chaque révolution correspond une exigence, celle de s'adapter. Il est clair qu'avec l'arrivée de l'IA, nous avons véritablement basculé dans une toute autre dimension, et d'ailleurs les préoccupations qui ont été exprimées et qui le sont davantage aujourd'hui par rapport aux emplois ou par rapport à d'autres domaines sont amplement justifiées par le fait qu'il y a encore un débat sur, je dirais, le danger que pourrait représenter l'IA par rapport à des secteurs ou à des activités qui nécessitent encore un contrôle de l'homme. Pour autant, Je pense que si l'on s'accorde sur la manière la plus efficace d'encadrer l'utilisation de l'IA, on ne parle pas ici d'une utilisation totalement débridée, avec, comme cela vient d'être rappelé, le risque qu'effectivement certains journalistes trouvent ou voient des traces de leurs écrits ou de leurs articles repris dans des compositions faites par l'IA, il y a nécessité, me semble-t-il, de pouvoir s'accorder sur la manière la plus efficace de réguler tout cela. Mais dans un monde aujourd'hui où la rentabilité, où la performance, où l'efficacité devient la règle, je pense qu'il est important que tous les acteurs, toutes les parties prenantes jouent franchement le jeu, sans arrière-pensée aucune, pour ne pas menacer ou pour ne pas exposer des pans entiers de l'activité au risque d'une utilisation excessive de l'intelligence artificielle.
Et on voit d'ailleurs comment les grandes puissances s'activent pour réguler l'usage de l'intelligence artificielle. Je parle de la Chine, des États-Unis ou encore de l'Iran. Aïd Almeida, on parle de la disparition des emplois, vous évoquiez cela tout à l'heure, mais de nouveaux types d'emplois devraient également voir le jour, notamment dans le domaine de la sécurité informatique. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui entrent ou qui sortent des universités aujourd'hui, ou à ceux qui sortent, qui souhaitent se reconvertir?
Oui, tout à fait. Je voudrais faire un parallèle entre ce phénomène de l'IA et puis celui un peu de l'avancée des banques digitales. Au moment où les banques digitales arrivaient, on avait eu peur pour les banques commerciales. Et vous avez vu que les banques commerciales se sont adaptées, elles ont adapté, digitalisé leur process. Et aujourd'hui, les banques digitales n'occupent qu'une petite partie. Les métiers qui risquent d'être implantés, ce sont les métiers comme celui de ceci, qui peut être impacté. Et on avait également vu que l'intelligence artificielle, quand c'est arrivé, c'est tout nouveau. Et c'est tout nouveau, et c'est l'après du nouveau qui prévaut et qui intéresse les jeunes. Alors, le conseil que moi je donnerais aux jeunes aujourd'hui, quand vous êtes à l'université, quand vous êtes en train de faire des études, quand vous êtes en informatique, l'intelligence artificielle, c'est un métier d'avenir, c'est un secteur porteur. Il faut y aller. Mais quand vous avez déjà fait d'autres choix d'études, d'autres choix de spécialisation, moi je leur conseillerais de s'y cantonner, de faire plutôt de l'intelligence artificielle un outil de productivité pour leur propre travail et aussi pour leur développement personnel. Il faut se servir de l'outil qu'est l'intelligence artificielle pour performer, pour atteindre de nouveaux horizons, plutôt que de vouloir s'efforcer de faire de l'intelligence artificielle son métier alors qu'on n'y a pas une appétence, qu'on n'a pas les compétences et qu'on ne peut simplement pas le faire. Parce qu'il faut faire des études pointues, il faut avoir un certain nombre d'aptitudes et de compétences pour pouvoir s'y mettre et pour pouvoir être performant dans ce domaine-là.
Alors, Guémal Afayon, le FMI indique dans son rapport qu'on évoquait en début d'émission que l'intelligence artificielle pourrait libérer les employés des tâches répétitives. C'est un peu un côté positif de cette intelligence artificielle. Comment cette transformation pourrait-elle affecter les emplois dans le secteur des médias numériques, par exemple?
Une chose très importante dans cette nouvelle analyse émise par le Fonds monétaire international, c'est que près de 40% des emplois dans le monde subiront les effets de l'intelligence artificielle qui pourrait en remplacer certains ou en compléter d'autres. Alors, sur la base de ce constat, on pourrait penser que les métiers concernés se situent probablement dans la catégorie d'école bleue, comme par le passé, mais ce qu'on voit, ce qu'on lit à travers ce rapport, c'est que des métiers issus de la catégorie des écoles blancs aussi pourront être affectés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Dans le secteur des médias, par exemple, vous avez des tâches répétitives, des tâches spécifiques, comme le commentaire sur image, sur la base de texte de l'AFP, par exemple, la rédaction de communiqués de presse, qui sont autant de tâches capables d'être aujourd'hui exécutées par des systèmes d'intelligence artificielle. On voit aussi apparaître déjà des possibilités au niveau de la présentation des journaux d'information. Donc on a aujourd'hui de vraies fausses personnes, donc des personnages créés de toutes pièces, donc à partir de logiciels d'intelligence artificielle et de reconnaissance vocale qui peuvent présenter un journal. Alors cette pratique a par exemple inspiré au début du mois le gouvernement ukrainien, puisqu'aujourd'hui l'Ukraine revient au ministère des Affaires étrangères à maintenant un porte-parole généré par l'intelligence artificielle pour spécifiquement commenter les affaires consulaires auprès de la presse. Ceci dit, c'est peut-être une innovation, mais je tiens à signaler que ce type de pratique peut causer d'importants torts dans le monde dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle générative, tels qu'on les voit, peuvent facilement utiliser des stratagèmes pour générer de fausses nouvelles qui peuvent devenir très virales sur les réseaux sociaux si, par exemple, ces informations sont propulsées par des algorithmes ou recommandations, ce qui peut malheureusement poser de graves conséquences aujourd'hui dans le débat démocratique, aussi bien au niveau local, dans un pays qu'au niveau international.
Alors, parlons, Henri Désiré, toujours de ce rapport du FMI qui suggère que l'intelligence artificielle pourrait exacerber les inégalités salariales. Vous travaillez dans le cadre de networking avec des acteurs économiques. Est-ce que dans cet environnement-là, cela se ressent déjà?
Alors, ce qu'il faut d'emblée dire, et je parle sous le contrôle de mes co-débatteurs, c'est que l'arrivée de l'IA ne s'est pas faite au même rythme selon les zones géographiques. Vous avez des zones, effectivement, où l'IA a pris des proportions alarmantes, on ne va pas y revenir, alors, on connaît l'Occident, les pays d'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord, etc. Et donc, sur le continent africain, c'est vrai qu'il y a un engouement certain, même s'il faut encore y mettre, je dirais, des balises, mais ce qui me rassure, me semble-t-il, c'est à la fois peut-être la lenteur avec laquelle cela est mis en œuvre, mais surtout, c'est surtout la prise de conscience, et cela vient d'être rappelé effectivement, sur le risque de dérive, puisqu'il est important, et vraiment j'aimerais insister là-dessus, que l'on puisse mettre des balises pour réguler de manière responsable, ce qui me fait dire d'ailleurs que l'éthique a toute sa place dans cette utilisation-là, même s'il ne faut pas non plus dramatiser. Vous savez, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, un peu ce qui vient d'être dit par rapport aux banques digitales. Vous savez, quand on a annoncé l'arrivée d'Internet, on a effectivement spéculé sur la disparition de la presse écrite. Aujourd'hui, vous n'avez jamais vu autant de librairies, je dirais, fournies en magazine, et vous avez toujours ce besoin compulsif d'avoir un contact physique avec le papier. Et je dirais que c'est la seule lueur d'espoir dans ce monde qui va à une vitesse vertigineuse et pour laquelle parfois le rythme est difficilement soutenable. Mais pour revenir à votre question proprement dite, je pense qu'il s'agit d'une question de responsabilité. Et tant que nous aurons à cœur de rappeler l'importance de la responsabilité, de l'éthique, mais surtout de la place que devrait prendre l'IA dans notre quotidien, parce qu'il n'y a pas que des méfaits, il y a aussi des bienfaits, cela a été rappelé également, il faut que l'on puisse utiliser le meilleur de l'IA tout en essayant d'en limiter l'utilisation abusive.
Aïd Almeida, le FMI met également en garde contre l'aggravation des inégalités sociales à cause de l'intelligence artificielle. Comment permettre à tout le monde d'adopter l'intelligence artificielle, je ne veux pas dire au même rythme, mais tout de même, comment aider l'Afrique, par exemple, à ne pas rater le train aussi de l'intelligence artificielle, comme cela a été le cas avec Internet. Je vois qu'aujourd'hui, il y a des ministères et même des présidences de la République où tu vas regarder un site Internet qui n'est pas actualisé ou qui n'existe même pas du tout.
Oui, j'entends bien, John, j'entends bien, mais c'est difficile. Ce sera idéal, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique risque toujours de rater ce nouveau train parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons encore les problèmes d'énergie. Sans énergie, vous ne pouvez pas avoir des téléphones qui marchent, qui sont chargés, des sites internet qui marchent. Avant d'arriver même à avoir un site internet de l'actualité, il faut les problèmes d'énergie, il y a des délestages un peu partout dans nos zones. Donc je pense que c'est la première chose. Nous avons des problèmes base à résorber. Les pays, je pense que le FMI parle des pays de l'OCDE qui ont eux déjà réglé leurs problèmes de facture digitale, qui sont déjà en avance. Nous n'avons pas encore réglé le problème de la facture digitale et maintenant nous allons courir derrière l'IA. Je pense que pour régler ce problème, il faut prendre le temps, avoir des universités qui forment suffisamment, donner la chance aux étudiants de faire des diplômes qui sont adéquats par rapport à ces besoins, la sensibiliser, former les populations
et faire en sorte que les faibles revenus puissent également avoir accès à cette nouvelle technologie, parce que les faibles revenus, il y a des gens qui savent manipuler leur ordinateur ou leur smartphone et d'autres qui ne savent pas le faire dans les faibles revenus, si je peux m'exprimer ainsi. Mmh. Et il y a encore ceux qui ont accès à l'Internet et aux autres choses, et ceux qui sauront utiliser l'intelligence artificielle. Déjà, il y a ce gap-là qu'il faut essayer de combler. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. Il faut voir le combler d'une manière ou d'une autre pour pouvoir essayer de rivaliser avec les autres. Tant qu'on n'a pas fait cet exercice-là, ce sont des gens qui, dans les systèmes hiérarchiques, qui seront les mieux lotis, qui vont progresser plus vite que les autres et casser une part plus importante de la richesse nationale en tant que classe sociale. Donc, à mon sens, le problème est plus profond que cela, et il faut vraiment, vraiment, vraiment régler les problèmes de base, d'infrastructure et autres, avant de penser à arriver là. Quoique c'est un outil qu'on doit intégrer, parce qu'il est déjà dans l'utilisation de tous les jours, on ne doit pas laisser le train arriver trop loin avant de se conscientiser sur ces choses-là, parce qu'il y a pas mal de pays africains où on parle de l'intelligence artificielle sans que cela ne soit encore introduit dans les établissements scolaires.
Alors,
on en parle, les jeunes se jettent là-dessus, ils ont des téléphones portables.
Justement, Gemma Fagnon, on avait cru que l'intelligence artificielle, ce serait qu'elle permettrait à l'Afrique de se rattraper, notamment à travers les jeunes. Mais sauf que la plupart des jeunes sont sur les réseaux sociaux, ne s'intéressent même pas profondément à l'intelligence artificielle. Quelle stratégie recommanderiez-vous à ces jeunes professionnels africains, notamment, pour rester compétitifs sur le marché du travail face à l'intelligence artificielle?
J'aimerais aborder dans le même sens que M. Dalméda pour dire en fait que c'est vrai que l'Afrique, c'est aujourd'hui le continent de la jeunesse, mais dans certains pays, on observe encore certaines caractéristiques comme une sous-informatisation, par exemple, par endroit, malgré l'essor de la téléphonie mobile, qui connaît un véritable boom sur le continent africain. Donc, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de profiter du micro de la VOA pour dire que le Bénin vient d'organiser une nouvelle édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, un événement organisé par le ministère de l'économie numérique du Bénin qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat numérique, pour dire qu'il est important de mettre en place aujourd'hui des collaborations renforcées entre les spécialistes d'une part et les dirigeants politiques d'autre part pour la mise en place de stratégies multiformes et multifactorielles afin de permettre aux jeunes professionnels africains de rester compétitifs face à l'intelligence artificielle. Il faut également plus de collaboration entre les spécialistes et les dirigeants politiques dans la mise en place de politiques publiques pour accompagner justement ces jeunes pousses dans l'entrepreneuriat numérique, car vous avez aujourd'hui de gros joueurs qui ambitionnent de dominer le marché de l'intelligence artificielle. On a Microsoft, par exemple, vous avez également deux autres compagnies que sont Google et Amazon. Google dispose déjà, par exemple, d'un laboratoire d'intelligence artificielle à Accra, la capitale du Ghana, et voit l'Afrique comme un marché prometteur. Et puis, on voit actuellement également une alliance stratégique entre IBM et Meta. Donc, il est aussi important d'investir dans les infrastructures, comme le disait M. Dalméda. Ensuite, il faut investir dans l'éducation de ces jeunes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se base sur les mathématiques, mais il faut également les connaissances générales. Donc, c'est important d'aller dans ce sens pour pouvoir
permettre
aux jeunes de pouvoir rester compétitifs.
C'est compris, Gemal. On va faire un dernier tour de table, 25 à 30 secondes pour chacun. Henri, Désiré. Qui doit prendre le taureau par les cornes, les gouvernements ou les jeunes qui sont aptes à utiliser l'intelligence artificielle?
Non, je pense qu'il faut un organe régulateur. Il faut d'abord les pouvoirs publics, évidemment, qui fixent le cadre. C'est important parce qu'on n'est pas non plus dans une jungle. On a vu des mesures de rétorsion qui ont été prises aux États-Unis contre notamment la Chine. Donc il faut vraiment, à ce niveau-là, que les choses se fassent de manière ordonnée, coordonnées pour qu'il n'y ait pas de dérive. C'est très compliqué d'introduire la notion de contrôle, de vérification dans un domaine aussi vaste et aussi volatile, mais il faut absolument jeter les bases.
En 10 secondes, Ayi Dalméda, que faut-il faire pour qu'on ne rate pas le train, définitivement?
Il faut se mettre au travail, il faut former, il faut sensibiliser et il faut mettre en place les infrastructures, les conditions, aussi bien au niveau de la régulation, du sens éthique et de la normalisation.
Voilà, c'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous, présentée par John Linden, production Georges Léonard Stagno. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.